Merci. Bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer ce matin. Notre pasteur Thierry Huser m'a demandé de bien vous saluer de la part de l'église de la Bonne Nouvelle de Colmar. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, et nous commencerons à lire à partir du verset 1. Donc Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Père Céleste, oui, nous sommes encore dans la reconnaissance ce matin pour ce privilège que nous avons de disposer en toute liberté de ta parole. Ta parole qui est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Ta parole qui est éprouvée, ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, nous te prions que tu nous viennes en aide pour serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, ta parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier, et qu'elle le soit jour après jour, instant après instant. Nous t'en prions avec ton aide, Père Céleste, que cela puisse effectivement être réalité à chaque instant de nos vies. Au nom de ton Fils, nous te le demandons. Amen. Alors ce matin, j'aimerais me pencher avec vous sur le verset 9 plus particulièrement, qui donc dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice » et de vérité. Donc j'aimerais aborder ce verset et donner le titre suivant à la prédication, le fruit de la lumière, ou si vous préférez, le fruit de l'esprit. Alors on verra donc dans un premier temps le passage des ténèbres à la lumière, et dans un deuxième temps, le fruit de la lumière. Alors d'abord, le passage des ténèbres à la lumière. L'apôtre Paul oppose les ténèbres à la lumière. Dieu a créé les deux. Nous le lisons dans Genèse 1, verset 1, 2. D'abord, les ténèbres ont été créées, puis la lumière. Nous lisons en Genèse 1 que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, verset 4. Dès le départ, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Et pour qu'il y ait lumière, il faut l'intervention de Dieu lors de la création du monde, comme lors de la venue de Jésus dans un cœur. Jésus-Christ a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jean 12, verset 46. Les ténèbres caractérisent donc la vie de l'être humain sans Dieu, loin de la vérité. Mais Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations. Luc 2, verset 2, verset 32, comme l'avait dit Siméon lors de la présentation de Jésus-Christ au temple. Nous notons d'ailleurs qu'à la naissance de Jésus-Christ, une étoile a brillé dans la nuit et a conduit les mages à Bethléem. Et à sa crucifixion, les ténèbres sont tombées en plein jour, de 12h à 15h. Ce sont les manifestations de la création à la venue et à la mort du Créateur. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont appelés à marcher comme des enfants de lumière. Nous l'avons lu en Éphésiens 5. L'apôtre Paul se sert de cette même opposition pour décrire le changement opéré par l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. Nous passons, si nous croyons, des ténèbres à la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Avons-nous lu au verset 8. Le chrétien né de nouveau est délivré de la puissance des ténèbres et il est transporté dans le royaume spirituel dont Jésus est le roi. Colossiens 1, verset 13. Le chrétien est citoyen des cieux. Philippiens 3, verset 20. Et appartient à un royaume gouverné par Dieu. Il est soumis aux lois de Dieu, aux préceptes divins. Alors la question qui se pose est la suivante, comment une personne peut-elle passer ainsi des ténèbres à la lumière? Par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et vous éclaire, vous montre vos péchés dont vous vous repentez. Le Saint-Esprit est un hôte divin dans le croyant. Il touche le cœur et l'intelligence et les émotions. Le chrétien est habité et baptisé du Saint-Esprit au moment de son salut. Alors un pasteur avait dit la chose suivante, il avait donné la formule, par le baptême du Saint-Esprit, la personne convertie entre dans l'Église, par le baptême d'eau, la personne convertie entre dans l'Église locale. L'être humain est ainsi changé, il naît de nouveau et a de nouvelles valeurs, de nouveaux buts, de nouvelles aspirations. Il y a un avant et un après. Et surtout, il a un nouveau maître, Jésus-Christ. Il est un enfant de lumière capable de marcher dans la lumière. Il est lumière car il a le Saint-Esprit. Nous notons ici que la parole de Dieu insiste bien sur l'opposition ténèbres-lumière. Il n'y a pas ici de zone grise, il n'y a pas ici de zone neutre, il n'y a pas ici de situation intermédiaire. On est soit l'un, soit l'autre. Alors la question qui se pose à chacun d'entre nous, croyons-nous en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Sommes-nous enfants de lumière? Jésus est-il notre Sauveur, notre Seigneur? Je le répète, il n'y a pas d'alternative à Jésus. C'est ou Jésus-Christ, ou la perdition éternelle avec ses châtiments, l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible l'affirme clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. acte 4, verset 12. Pour reprendre les propos d'un autre pasteur, une formule qui sonne bien, je trouve, et qui me semble juste, celui qui naît deux fois, c'est-à-dire celui qui naît physiquement et spirituellement, ne meurt qu'une fois physiquement. Mais celui qui naît qu'une fois physiquement, lui va mourir deux fois, c'est-à-dire il va mourir physiquement et spirituellement. C'est la seconde mort dont parle l'Apocalypse dans son chapitre 20, les versets 14 et 15. Le chrétien, donc, né de nouveau, est un enfant d'une lumière appelé à marcher dans la lumière. Alors, la question qui se pose, comment se manifeste cette marche dans la lumière ? Eh bien, en présentant le fruit de la lumière. Alors là, nous arrivons à la deuxième partie du message, le fruit de la lumière. Alors d'abord, avant d'aborder le fruit au stricto sensu, on va avoir deux remarques préliminaires qu'il faut donc aborder. La première remarque, le verset 9 comporte dans le grec le mot pneumatos. Le mot pneumatos signifie donc esprit. Et parfois dans certaines Bibles, peut-être dans la vôtre, le mot lumière est traduit par esprit. C'est la raison pour laquelle donc certains parlent du fruit de l'esprit en Éphésiens 5, comme on parle du fruit de l'esprit en Galates 5, verset 22, où l'apôtre énumère le fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Sur le fond, finalement, nous noterons que quel que soit le mot utilisé pour la traduction, que ce soit donc la lumière ou l'Esprit Saint, cela revient au même, c'est le Saint-Esprit qui donne la lumière et cette lumière éclaire le cœur. Par l'Esprit Saint, nous sommes transportés dans le royaume des cieux, nous sommes citoyens des cieux, nous l'avons dit, avec pour roi Jésus-Christ, et nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes lumière, parce que nous avons l'Esprit Saint. Deuxième remarque, la Bible mentionne le fruit de la lumière, et non les fruits de la lumière. Et ceci dans Éphésiens 5, le fruit de la lumière, et dans Galates 5, le fruit du Saint-Esprit. L'article est défini, et l'article défini est au singulier dans les deux passages. En Éphésiens 5, les composantes du fruit de la lumière constituent un tout, comme en Galates 5. Ce n'est pas l'une ou l'autre composante, c'est tout. C'est l'ensemble qui forme le fruit. Dieu attend de l'enfant de lumière le fruit de la lumière. Satan a du fruit, afin que les hommes voient les bonnes œuvres. Ainsi, Dieu est glorifié. Qu'est-ce qu'a enseigné Jésus-Christ en s'adressant donc aux disciples à ce sujet ? Il leur a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 14 et 16. Dieu attend du fruit de ses enfants en guise de témoignage à l'égard de nos contemporains, et cela pour glorifier Jésus. Alors, quelles sont les marques distinctives de ceux qui marchent dans la lumière ? Quel est le fruit d'une vie dans la lumière ? Alors, Paul mentionne le trio suivant, nous l'avons lu, la bonté, la justice, la vérité. Le fruit est incontournable pour un vrai chrétien. Le chrétien sans fruit n'existe pas. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de vie. Le fruit témoigne que quelqu'un est en Christ. Le fruit est un signe de reconnaissance. Comme l'a enseigné Jésus dans l'évangile de Matthieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Matthieu 7, verset 16. Et Jésus continue un peu plus loin en disant : ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Alors la première composante du fruit de la lumière, c'est la bonté. Alors la bonté concerne nos relations à autrui, C'est un aspect horizontal. Elle recouvre la gentillesse, l'humilité, l'altruisme, qui est le contraire de l'égoïsme. Ceci au travail, en famille, à l'église évidemment, et dans le voisinage. La bonté implique notre attitude vis-à-vis du prochain, mais pas notre attitude vis-à-vis du péché. Le fruit, donc, constitue un tout. On ne peut pas isoler la bonté de la justice et la bonté de la vérité, ni la justice de la vérité. Citons un exemple. Pour être concret, prêter un véhicule à quelqu'un est un acte de bonté. Mais si la personne n'a pas le permis de conduire, on enfreint la justice. Donc, ce n'est plus un fruit de la lumière. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » 1 Thessaloniciens 5, verset 5b. Dans l'épître aux Galates, Paul précise également sa pensée et dit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Galates 6, 10. Alors, « surtout » en grec signifie plutôt « spécialement ». L'apôtre Paul insiste donc sur le bien pratiqué envers les membres de la famille spirituelle, les frères et les sœurs en Christ, entre autres, mais ça ne se limite pas à cela. Dans un autre texte, l'apôtre Paul accorde une priorité à certaines personnes en ce qui concerne l'aide. Et il dit « afin que l'Église puisse assister les personnes qui sont véritablement veuve. 1 Timothée 5,16. L'affectation des aides et des soutiens réclame de la sagesse et de la prudence pour que nos ressources et celles des églises soient bien utilisées. Il convient de se souvenir qu'il s'agit de l'argent du Seigneur. La bonté émise, voulue et manifestée envers le prochain n'est pas toujours reçue de cette façon par autrui. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur prend en compte l'intention de faire le bien, même si le chrétien ne peut pas matérialiser le bien. Cela nous rappelle le roi David qui avait l'intention de construire le temple que son fils Salomon érigera finalement selon la volonté de Dieu. Dieu a dit à David, « Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. » 2 Chroniques 6, verset 8. En quelque sorte, nous prolongeons la bonté de Dieu envers nous par notre bonté et notre bienveillance envers autrui. Je pourrais le formuler ainsi, nous sommes des prolongateurs de la bonté de Dieu. Cette bonté de l'enfant de Dieu se démarque de l'indifférence à autrui, de la méchanceté et de la dureté de notre société enténébrée, même si tout les enfants de ténèbres ne sont pas également indifférents, méchants, etc., bien sûr. Nous avons noté que cette bonté du chrétien peut être asymétrique, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas toujours de réponse en retour. Ou pire, elle s'exerce dans un contexte d'hostilité, déclarée ou non, envers le chrétien ou envers l'Église. Certaines personnes sont attirées par les ténèbres et préfèrent les ténèbres à la lumière. Elles ont la volonté de partager cette préférence pour les ténèbres. D'où la haine pour la lumière. Des personnes peuvent haïr les enfants de lumière en raison de leur conduite, de leurs attitudes, de leur comportement et parfois se trouvent mal à l'aise en présence des enfants de Dieu. Jésus lui-même a enseigné cette réalité-là. Il nous a avertis, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 3, verset 20. Comment être lumière dans ce contexte et comment manifester sa bonté? Que le contexte soit favorable ou défavorable, le Seigneur demande aux chrétiens d'aimer son prochain comme lui-même, comme soi-même. Matthieu 22, 39. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, versets 27-28. Et Jésus décrit l'attitude attendue d'un enfant de Dieu envers ceux qui s'opposent à la lumière. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent d'eux-mêmes. » Luc 6, 32-33. Seigneur nous a avertis dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, versets 11 à 12. Dieu nous demande d'être bon avec les justes et les injustes, car lui-même est bon envers eux tous. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, versets 35-36. Être bon comme Dieu est bon. Lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. Alors quel programme, n'est-ce pas ? Quel programme ? Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour être lumière dans une telle adversité et manifester notre bonté indépendamment des circonstances. Avons-nous fauté ? Certainement bien des fois. Mais Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Et Dieu nous accorde le soutien nécessaire pour vivre notre vie d'enfant de Dieu et pour accomplir ce que l'apôtre Paul demande. Prenez garde, dit l'apôtre, écrit l'apôtre, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. 1 Thessaloniciens 5. Après la bonté, l'apôtre Paul mentionne une deuxième composante du fruit de la lumière, la justice. Alors, être lumière donc implique l'observation des préceptes bibliques et l'observation des lois humaines, à condition que ces dernières soient compatibles avec la parole de Dieu, bien évidemment. S'il y a incompatibilité entre les deux, la Bible nous enseigne « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Acte 5, verset 29. L'apôtre Jean a abordé cette question de la justice dans sa première épître de manière suivante. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu » et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. C'est donc un signe de reconnaissance de l'appartenance à la famille de Dieu. Si Dieu dit c'est juste, c'est juste. Et Dieu nous aide, car ses préceptes sont stables. Je suis lumière, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Alors ne nous écartons pas du chemin de la sainteté et serrons sa parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Psaume 119, verset 11. Alors prenons un exemple par rapport à la justice. L'État, le gouvernement décide de modifier les limitations de vitesse sur les routes bidirectionnelles. Donc on est passé de 90 à 80 km à l'heure. Donc ça, c'est l'État qui décide, ce sont les autorités qui ont pris cette décision. Bon, est-ce que la Bible s'y oppose ? Non. Donc nous, on est enjoint évidemment à respecter cette loi humaine. Alors ce n'est pas forcément toujours facile pour nous, mais nous sommes vraiment appelés à le faire. Alors souvenons-nous, il y a trois composantes, la bonté, la justice, la vérité. Alors, le fruit de la lumière est ainsi composé de ces trois. Il n'y a pas de bonté sans justice, pas de bonté sans vérité, il n'y a pas de bonté ou de justice sans vérité. La troisième composante donc du fruit de l'esprit, la vérité. Alors que la bonté est reliée aux autres hommes, que la justice est reliée à Dieu, aux autorités humaines, c'est l'aspect vertical, la vérité est en rapport avec nous-mêmes. Donc là, on est dans un contexte réflexif. La vérité mentionnée dans ce passage d'Éphésiens 5 n'est pas la vérité par rapport à la foi en Dieu ou la vérité par rapport à l'Écriture. Il s'agit de la vérité de l'enfant de Dieu par rapport à Dieu et par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Le chrétien se doit d'être digne de confiance, d'être vrai devant Dieu et devant les hommes. Exemple. Il s'agit d'être vrai dans les motifs mentionnés, ne pas être faux en cachant les vrais motifs d'une action entreprise. On appelle ça en termes techniques une manipulation par amorçage. Le chrétien ne manipule pas autrui en cachant une partie de la vérité ou de l'information. Le chrétien se doit d'être honnête, droit, intègre, authentique par rapport à Dieu, par rapport à lui-même, par rapport aux autres. Il dit non à la mascarade, il dit non à la comédie, lorsque ce qui est affiché, montré, affirmé, ne reflète pas ce qui est dans le cœur. Le chrétien n'a pas besoin de serment pour prouver qu'il dit vrai. Jésus a dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Matthieu 5, verset 37. Le prophète Zacharie a déjà abordé ce thème en disant « Voici ce que vous devez faire. » Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Zacharie 8, versets 16 à 17. Donc, il y a aussi l'aspect de la pensée qu'il faut aborder quand on parle de vérité, par exemple, on peut avoir des pensées qui sont fausses quand on aborde des intentions prêtées à autrui sans en avoir la preuve. C'est d'ailleurs aussi vrai pour la justice et la bonté. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens 4, verset 8, il nous dit que tout ce qui est vrai, et après il continue, ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Être vrai, authentique et bon n'exclut pas de devoir parfois dire des choses désagréables à autrui. Par exemple, vous êtes au restaurant, et le chef d'un restaurant vous pose la question relative aux plats servis. Parfois, il peut arriver qu'on puisse proposer au chef des suggestions d'amélioration, des pistes d'amélioration par rapport à l'un ou l'autre élément du plat. Jésus-Christ fournit un autre exemple d'une telle attitude authentique face aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors, c'est Jésus qui dit la chose suivante, « Vous êtes grandement dans l'erreur. » Matthieu 12, verset 27, il ne les a pas flattés. Oui, laisser autrui dans son péché, laisser autrui dans son erreur, dans son hérésie, n'est pas faire preuve de bonté ou de vérité. Bonté, justice et vérité forment le fruit de la lumière ou le fruit de l'Esprit Saint en nous. Faisons-nous appel à ces trois filtres non exclusifs les uns des autres dans notre vie de disciples ? Sommes-nous lumière dans ce monde enténébré, quelles qu'en soient les circonstances ? À la fin d'une journée, posons-nous les questions suivantes. Ai-je été lumière en ce jour ? Mais être lumière, avoir le fruit de la lumière, n'est pas non plus synonyme, attention, n'est pas synonyme de naïveté. Pourquoi ? Parce que la Bible nous avertit. Tout ce qui est apparemment lumière n'est pas toujours lumière. Parfois, les ténèbres se déguisent en lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, de Corinthiens 11, verset 14. Et certains peuvent imiter la lumière dans l'Église ou en dehors. Ailleurs, l'apôtre Paul avertit du danger des faux docteurs. Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 1, verset 16. Il y a une différence entre dire être chrétien et être dans la lumière, être chrétien. On peut être membre d'une église, quelle qu'elle soit, et ne pas être chrétien. faut faire attention au mélange entre ténèbres et lumière. Les choses sont souvent en demi-teinte. Il y a un peu de lumière pour dissiper les ténèbres par ailleurs. L'apôtre Jean invite également à la prudence. Il a écrit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Jean 1 Jean 4, verset 1. Alors soyons vigilants. C'est un devoir de vigilance que la Bible la Bible nous appelle. Alors soyons vigilants, souvenons-nous des trois filtres, bonté, justice, vérité. C'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Parfois, l'enfant de lumière est appelé à s'éloigner de ce monde sans Dieu, voire de le condamner, les œuvres infructueuses et ténèbres, comme nous l'avons lu au verset 11 d'Éphésiens 5. Il s'agit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, verset 10. Et non agréable à nous-mêmes ou à autrui. L'apôtre Paul énonce ici deux principes. Un principe de séparation, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Éphésiens 5, verset 11, et un principe d'absence de réciprocité, d'absence de neutralité, pardon, et un principe d'absence de neutralité ou de non-neutralité, mais condamnez-les, c'est-à-dire condamnez les œuvres infructueuses, Éphésiens 5, verset 11. Donc ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. La sainteté dans nos vies implique cette séparation et nous conduit à rejeter le mal et à dénoncer le péché là où il y a péché. L'enfant de lumière prend position et ne se tait pas pour préserver une fausse harmonie ou un semblant d'harmonie. La parole de Dieu est notre boussole. Et le prophète Ésaïe a averti « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Quiconque qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Éphésiens 5, verset 20. Face au renversement des valeurs, la neutralité ou le silence sont coupables. Alors il y a une façon de le dire à la bonne personne, au bon moment et de la bonne manière, afin que Dieu soit glorifié. Parce que si ce n'est pas fait avec la forme appropriée, les personnes risquent d'évacuer le fond pour des raisons de forme. Donc la forme de la communication, ici, importe comme toujours, mais là, c'est particulièrement important. Alors, pour terminer, l'apôtre Paul nous invite à nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et avec circonspection, en grec, ce serait une marche avec précision. Ou une autre traduction de la Bible dit « marcher soigneusement ». Le monde observe les enfants de lumière, au travail, en famille, à l'église, dans le voisinage. Alors soyons prudents afin d'éviter d'être un contre-témoignage. Faisons nôtre cette exhortation de l'apôtre Paul à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre cette vie d'enfant de Dieu, cette vie d'enfant de lumière, et porter ce fruit de la lumière, la bonté, la justice, la vérité. Et donnons la bonne image de l'Évangile de Jésus-Christ pour sa seule gloire. Nous sommes les messagers de l'Évangile, les ambassadeurs du roi des rois. Évitons de faire ce qui déplaît à Dieu et faisons ce qui plaît à Dieu dans ce monde sans Dieu, être lumière et porter le fruit de la lumière. Vous savez, nos contemporains observent nos vies. Et souvent, ils savent ce qu'ils sont en droit d'attendre d'un véritable chrétien. Notre conduite, nos comportements, nos attitudes, nos actions, s'ils savent que nous sommes enfants de Dieu. Alors montrons aux inconvertis qu'ils ont tort. L'évangélisation peut commencer par nos attitudes, par nos comportements, et que nos comportements voient la beauté, l'amour, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, l'honnêteté de Jésus-Christ au travers de nous. Et surtout, ne nous décourageons pas Dieu nous vient en aide. Et si nous avons fauté, et qui n'a pas fauté, revenons à Jésus avec un cœur repentant. Il est prêt à nous pardonner et à nous purifier de toute iniquité. Le chrétien est appelé à être enfant de lumière, c'est donc la manifestation extérieure d'une réalité intérieure, d'une vie rachetée par le sang de Jésus. Le témoignage vu n'est pas forcément reçu par l'incroyant, mais le contre-témoignage vu a de fortes chances d'être reçu à 100%. Alors, ça peut vouloir dire ne pas toujours être agréable à autrui. Je peux vous donner une illustration concrète pour bien expliquer encore cela. C'était donc lors d'un jury, dans une école d'ingénieurs, et un élève ingénieur a eu le malheur de perdre sa maman pendant l'année universitaire d'une maladie. À cause de cette maladie, de l'enterrement de sa maman, il n'a pas pu venir assister à une épreuve obligatoire. Du coup, n'ayant pas pu assister à cette épreuve obligatoire, il n'a pas eu il n'a pas été reçu à l'examen, à la première session, parce qu'il n'avait pas passé tout simplement toutes les épreuves, bien qu'il avait la moyenne qu'il fallait, donc même plus, c'est-à-dire 12 sur 20 de moyenne, mais il n'avait pas satisfait à toutes les obligations. À partir de ce moment-là, donc il a passé sa deuxième session, et il a réussi, il a pas bien réussi son devoir, mais enfin, il a fait ce qu'il a pu, et il a satisfait à toutes les obligations, et il avait les conditions pour être reçu, mais à la deuxième session. Et du coup, le directeur des études disait... Bon, finalement, ce jeune homme, cet élève ingénieur, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été reçu à la première session. On pourrait le déclarer reçu à la première session. Et alors, il pose la question, est-ce que quelqu'un est contre? Et le chrétien qui était là dans le jury a dit, il a levé la main, non, il est contre. Alors, certes, le directeur des études avait un acte de bonté envers lui d'un autre côté, mais ce n'était pas juste, ce n'était pas conforme au règlement de l'école, et ce n'était absolument pas non plus vrai, c'était un mensonge. Donc parfois, si vous voulez, être enfant de lumière consiste à tout simplement bien marier la bonté, la justice, la vérité. Ça peut parfois nous conduire à être désagréables d'un côté, à éviter de nous engager et de faire alliance avec d'autres dans des voies qui ne sont pas très conformes à la vérité. Donc il faut faire très attention pour que nous ne nous laissions pas entraîner à notre corps défendant dans des choses qui seraient par exemple pas véridiques. Que Dieu nous vienne en aide. Alors je vais encore terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voyons dans ta parole que toi-même tu nous donnes des injonctions claires. Tu nous appelles à être enfants de lumière. Tu nous as ouvert les yeux sur notre propre condition. Tu nous as fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière pour vivre dans cette lumière et porter ce fruit de la lumière. Mais Seigneur, tu vois, ce n'est pas toujours facile pour nous d'être ainsi lumière en toutes circonstances, en tout moment, et que toi-même, notre Dieu, tu nous viennes en aide pour que nous reflétions dans nos vies ce que toi-même tu as fait dans nos cœurs. Que nous soyons, Seigneur, ce prolongateur de la bonté divine, de ta bonté dans ce monde qui est enténébré. Que nous soyons, Seigneur, de ceux qui sont vrais en toutes circonstances, authentiques, sincères. Que nous soyons justes, que nous soyons dans nos vies conformes, autant que cela se peut, Seigneur, aux lois qui sont celles de la République, lorsqu'elles sont conformes à ce que toi tu demandes. Ou Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu nous pardonnes aussi toutes les fois où nous n'avons pas été tes enfants de lumière, où nous avons été un contre-témoignage, et peut-être même, Seigneur, une pierre d'achoppement pour l'un ou pour l'autre. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes reconnaissants parce qu'auprès de toi se trouve le pardon en abondance, mais aussi, Seigneur, auprès de toi, nous avons toutes les ressources pour mener cette vie que toi-même, tu nous demandes de vivre, parce que, Seigneur, tu donnes ce que tu ordonnes. Et Seigneur, nous en sommes pleinement reconnaissants. Oui, ô notre Dieu, reçois notre louange et notre adoration, parce qu'en toi, nous avons un maître merveilleux, nous avons un sauveur admirable. Nous sommes vraiment pleins de joie d'avoir un tel sauveur, d'avoir une telle perspective devant nous, d'être un jour pour toujours en ta présence. Oui, loué soit ton nom, Père Céleste. Merci, ô notre Dieu, parce que conformément à ta parole, tu es avec nous tous les jours. Nous pouvons compter sur ton aide à chaque instant et tu ne fais pas défaut. Maintes fois, nous l'avons constaté, Seigneur, et nous te faisons confiance pour la suite, pour que toi-même encore, tu nous épaules jusqu'à notre départ vers toi ou jusqu'à ton retour vers nous. C'est à ta gloire que nous te le demandons. Amen.